Sur ce square du 29 juin, une plaque évoque le drame qui se noua ici il y a 80 ans. Sur le monument aux morts, place de la mairie, figurent 37 noms de Saint-Jeannet morts durant la Seconde Guerre mondiale. Une plaque rappelle également que Saint-Jean a reçu en 1948 la Croix de guerre. Le texte de la citation révèle le rôle important de la commune durant ce conflit. Je le cite « Bastion avancé du Vercors, dont le nom est entré dans l'histoire, la commune de Saint-Jean a, en toutes circonstances, participé de très près à la vie secrète d'abord, à l'héroïque épopée ensuite de ce haut lieu de France. Centre de recrutement, de ravitaillement, a lourdement payé par le sang versé et les représailles qu'elle a subies du fait d'un ennemi sans pitié, sa participation au sublime fait d'armes de ceux qui n'avaient pas perdu leur foi en les destinées de la France. » Ainsi, pour mieux comprendre le bombardement du 29 juin, revenons sur le rôle de Saint-Jean durant le conflit. Avant-guerre, Saint-Jean est une prospère bourgade industrielle de 2700 habitants. Albert Chaloin, industriel socialiste, est maire depuis 1925 et conseiller général. Septembre 1939, la guerre est déclarée. Mai 1940, l'Allemagne envahit la France et en juin, notre armée est terrassée. Pétain demande l'armistice. 1 850 000 soldats, dont 35 Saint-Jeannet, rejoignent alors les camps de prisonniers en Allemagne. Les Allemands occupent le nord et l'ouest de la France. La zone sud, dite libre, accueille de nombreux réfugiés. À Saint-Jean, d'ailleurs, dès l'avant-guerre, des Espagnols fuyant Franco avaient ici trouvé refuge. Juin 1940, la République disparaît. Le régime de Vichy engage la collaboration avec l'Allemagne nazie. Il impose ses nouvelles organisations avec, par exemple, les chantiers de jeunesse pour prendre en main les jeunes n'ayant plus à accomplir de service militaire. Dès 1942, un groupement des chantiers de jeunesse s'implante à Saint-Jean ainsi que dans le Royan. La citation de la Croix de guerre rappelle que Saint-Jean a, en toutes circonstances, participé de très près à la vie secrète. Très tôt s'expriment en effet les premiers refus. Benjamin Malossane, directeur d'école, inscrit sur son tableau à la rentrée de 1940 « Vive l'Angleterre qui continue la lutte ». Mis à la retraite dès 1941, il diffuse alors des tracts clandestins. Constant Berthet, chirurgien dentiste récemment installé à Saint-Jean, rejoint lui le mouvement combat, puis, par l'intermédiaire de son voisin, Zozo Ola, rencontre Malossane. Ces hommes sont contactés par des résistants grenoblois afin de créer un maquis dans le Vercors. Fin 42, la pression s'accroît en effet avec l'occupation italienne et allemande de la zone sud. Puis vient la création du STO, le service du travail obligatoire, en février 1943, conduisant 17 jeunes Saint-Jeannets à devoir eux aussi partir travailler en Allemagne. Pour les pourchassés et les réfractaires qui refusent le STO, une seule solution, le maquis. Plusieurs camps sont créés. Les résistants Saint-Jeannet nouent des relations étroites avec le C1, situé à Ombelle, et le C6, créé par Benjamin Malossane, à Vassieux, au col de la Chaux. Et comme la citation de la Croix de guerre le rappelle, Saint-Jean constitue dès lors un centre de recrutement, un centre de ravitaillement. Saint-Jean est en effet un passage obligé pour les jeunes souhaitant rejoindre le maquis. Ces jeunes sont ici longuement questionnés afin de vérifier leur fiabilité et d'éviter les infiltrés. Malossane crée de fausses pièces d'identité avec l'appui d'une secrétaire de mairie et Berthet les diffuse. Pour nourrir les maquisards, des vivres sont collectés ou parfois récupérés lors de coups de main. La compagnie civile du Royan, créée en 1943, parvient par exemple à récupérer certains stocks des chantiers de jeunesse. Mais ces engagements sont malheureusement risqués. Dans le maquis, lors d'un accrochage avec des soldats italiens, en septembre 1943, deux maquisards du C6, deux Royanais, périssent. Les blessés sont descendus et soignés à Saint-Jean par le docteur Guyat. En octobre, Malossane reçoit un message anonyme menacé par la Gestapo de points Malossane, Berthé, Teston, Morel. Alerté, les concernés se cachent. Berthé est finalement arrêté, mais il parviendra à se libérer quelques semaines plus tard. Avril 1944, lors de la venue de la milice dans le Vercors, des complicités locales, notamment la postière de Saint-Jean, permettent de donner l'alerte aux hommes du camp d'Ambel. Quelques jours plus tard, la milice fusille trois hommes à Vassieux, dont Doussin, pharmacien de Saint-Nazaire. Elle condamne par ailleurs à mort par contumace Benjamin Malossane. La citation rappelle que Saint-Jean fut bastion avancé du Vercors et qu'il prit part à l'héroïque épopée de ce haut lieu de France. Car en juin 1944, après le débarquement de Normandie, c'est l'euphorie. 4000 hommes affluent dans le massif qui est verrouillé. Toutes les compagnies civiles sont mobilisées. À Saint-Jean, le café Hénard, au lieu de résistance depuis des mois, devient alors un véritable bureau de recrutement. Un ancien résistant témoigne. Le café Hénard est rempli de jeunes gens, dans une ambiance indescriptible, et dehors, un groupe de jeunes gens défile, derrière un drapeau tricolore, chantant la Marseillaise. Il en arrive de tous les villages voisins du Royan. La jeunesse attendait cette heure-là depuis si longtemps. Dans le Vercors, la République est restaurée. Benjamin Malossane, secondant le chef civil Eugène Chavan, devient responsable de la zone sud du Vercors drômois. Mais la gloire précède les larmes, la citation rappelant ensuite que Saint-Jean a lourdement payé par le sang versé et le représailles qu'elle a subi du fait d'un ennemi sans pitié. Le Vercors résistant est en effet dans le Vercors des troupes allemandes, consciente de l'effervescence qui y règne. Alors que l'état-major projette une opération d'envergure contre le massif pour le mois de juillet, la Luftwaffe s'en prend d'abord au village des Piémonts ouest. Soux, Combeauvin, Beaufort, Plan-B sont bombardés dès le 22 juin. Le 29 juin, il y a 80 ans, c'est au tour du Royan. Les avions décollent de Chabeuil et rejoignent le Royan par la trouée de Saint-Nazaire, où tombent les premières bombes, occasionnant deux morts. C'est ensuite au tour de Pont-en-Royan où les bombes feront 9 victimes. Quelques minutes plus tard, le vrombissement des moteurs se fait entendre sur Saint-Jean. Il est à peine 19h, c'est la stupeur générale. Une bombe de 300 kg tombe à la cime du bourg et elle détruit la maison Testoux. Une autre ouvre un cratère dans le champ de l'hospice, à l'emplacement de l'actuelle salle de la parenthèse. Une troisième, en plein village, sur la Grand Rue, détruit des maisons de la rue Jean Jaurès. Et une quatrième, anéantit non loin du champ de Mars, l'hôtel Virard. Un énorme et lourd nuage de poussière recouvre alors la ville. Les habitants affolés descendent dans les rues. Les dégâts sont considérables. Il faut venir en aide aux victimes et contenir l'incendie. Beaucoup d'habitants d'aujourd'hui se souviennent de ces événements et ce sont les jeunes enfants des écoles de Saint-Jean qui vont lire quelques témoignages.